Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. L'instruction sous le couperet de la guillotine. Jean-Baptiste Coffinal était médecin et n'aimait sans doute pas les savants, à moins que la déraison révolutionnaire l'ait emporté sur ses véritables sentiments. Nommé vice-président du tribunal révolutionnaire, il eut à juger Antoine Laurent de Lavoisier, à qui l'on reprochait d'avoir été fermier général, crime impardonnable, car pour les révolutionnaires, si cette charge était le symbole de la société néligataire, les fermiers étaient en plus des rapaces et des tyrans. Et Coffinal le condamna à la guillotine. Le savant qui s'était constitué prisonnier lui demanda un délai de 2 semaines afin d'achever une expérience. Coffinal lui aurait répliqué « Nous n'avons pas besoin de chimistes ». La postérité préfère retenir la formule « La République n'a pas besoin de savants ». Après sa mort, le mathématicien Joseph-Louis Lagrange devait dire « Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête » et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. Lavoisier est considéré comme le père de la chimie moderne. On a oublié qu'il élabora aussi des projets éducatifs pour les artisans d'abord, pour les enfants ensuite. Dans quelques années, la France connaîtrait une génération d'ignorants à cause de la désorganisation de tout le système éducatif provoqué par la Révolution, devait-elle dire en 1791. S'inspirant des idées de Condorcet, Lavoisier composa un petit traité intitulé « Réflexions sur l'instruction publique » présenté à la Convention nationale par le Bureau de la consultation des arts et métiers et imprimé sur 20 pages par les soins de Dupont de Nemours vers 1793. « L'homme naît avec des sens et des facultés », écrivait-il dans son préambule. « Mais il n'apporte avec lui en naissant aucune idée. » Son cerveau est une table rase qui n'a reçu aucune impression, mais qui est préparée pour en recevoir. Il restait donc à semer dans ces cerveaux-là. Lavoisier proposait un enseignement laïque, orienté vers les arts utiles et comportant 4 niveaux, école primaire, secondaire, instituts nationaux et lycée, les équivalents des facultés. Une société centrale des sciences et des arts couronnait le tout. Il revendiquait encore l'importance du jeu comme instrument éducatif et suggérait que l'éducation primaire suive la méthode naturelle. Ce devoir de la société vis-à-vis de l'enfant devait être gratuit. Il souhaitait enfin, pour l'enseignement secondaire, une grande éducation scientifique. Et le savant était clairvoyant. Une nation chez laquelle les sciences et les arts languiraient dans un état de stagnation serait bientôt devancée par les nations rivales. Lavoisier devait présenter ses réflexions à la Convention le 22 septembre 1793. Le vote 5 jours auparavant de la loi des suspects, provoquant la terreur, remisa toute idée d'instruction, même publique. Lavoisier ignorait qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre. Il faudra attendre la loi d'Auneau du 3 Brumaire en 4, en octobre 1995, la veille du jour où la Convention devait se séparer, pour que la France dispose d'une loi générale sur l'instruction publique. Pierre-Claude-François Donneau, un Boulonnais, fut l'un des conventionnels, mais un modéré. Ancien oratorien défroqué, certes, il ne vota pas la mort du roi, mais le bannissement. Il fut arrêté et sauvé grâce aux 9 thermidors, et comme il était essentiellement épris d'instruction publique, il revint à ses amours. Donneau fut l'un des auteurs des constitutions de 1795, puis de 1799, et aussi l'un des fondateurs de l'Institut, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Dans son essai sur l'instruction publique, Donneau prêchait pour une réforme en profondeur de l'orthographe. « Je demande la restauration de tout le système orthographique et que d'après l'analyse exacte des sons divers dont notre idiome se compose, l'on institue entre ces sons et les caractères de l'écriture une corrélation si précise et si constante que, les uns et les autres devenant égaux en nombre, jamais un même son ne soit désigné par 2 différents caractères, ni un même caractère applicable à 2 sons différents, disait-il. Mais quel orthographe et de quelle langue ? Le français, naturellement. Mais en juin 1794, selon l'abbé Grégoire, autre conventionnel, on ne parlait exclusivement le français que dans environ 15 départements sur 83. Et ajoutait-il, encore la langue éprouve-t-elle des altérations sensibles, soit dans la prononciation, soit par l'emploi des termes impropres et surannés. L'abbé, il l'était toujours car le premier a prêté serment à la constitution civile du clergé, ce qui lui valut le siège épiscopal de Blois, avait relevé 30 patois, qui rappelaient les provinces d'autrefois, c'est-à-dire le bas-breton, le normand, le picard, le rouchy ou vallon, le provençal, le catalan, en y ajoutant l'italien de Corse et l'allemand des Haut-Rhin et Bas-Rhin. Il notait encore qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale, et qu'un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie, et qu'en définitive, le nombre de ceux qui la parlent purement n'excède pas 3 millions sur 28 millions d'habitants. Derrière ces statistiques, la réflexion de l'abbé Grégoire était toute politique. Le fédéralisme et la superstition par le bas-breton, l'émigration et haine de la République par l'allemand, la contre-révolution par l'italien et le fanatisme par le basque. Cassons ces instruments de dommages et d'erreurs. Toujours est-il que le rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française, imprimé lui aussi en 1794, marqua un tournant dans l'instruction publique. Et si le français devint obligatoire, il ne fut réellement mis en application qu'un siècle plus tard. Revenons un instant vers Lavoisier. Juste retour des choses, ses œuvres complètes et définitives furent imprimées par les soins du ministre de l'Instruction publique et des cultes par l'imprimerie impériale en 1864.